Sarah Rouleau, chef des communications et du marketing, programme francophone d'Aliensia. Bonjour!
Bonjour!
Bon, désolé, je vous avais mal présenté, mais ça arrive, hein, des fois, on se fourvoie. Donc, le mois dernier, l'équipe de l'INCA a visité Québec avec son hub mobile. Je me rappelle, je pense que c'est moi qui avais fait l'entrevue avec vous. Oui. Et on en a profité pour lancer donc le nouveau plan stratégique qui s'intitule « La voie à suivre ». Alors, justement, c'est en tant que gestionnaire des communications et de la sensibilisation, on va parler avec vous, Chantal, de ce guide, en fait, de ce plan qui va guider l'INCA pour les 5 prochaines années. Alors, c'est quoi le but de ce nouveau plan?
Oui, en fait, avec notre nouveau plan, bien, on est vraiment prêt à lever le ton. En fait, c'est qu'il reste encore des barrières là, pour les personnes aveugles et on ne veut plus attendre le changement. Maintenant, on veut vraiment le réclamer pour défoncer les barrières qui restent. On le sait là, qu'un plan stratégique, hein, c'est sur 5 ans. On ne peut pas tout changer, même si on aimerait bien, mais on espère au moins changer de direction et que la société devienne plus accessible, pas juste parce que c'est la bonne chose à faire, parce que sinon, bien, on attendrait indéfiniment que tout le monde soit sensibilisé puis le fasse parce que c'est la bonne chose à faire. Donc maintenant, on n'accepte plus que les besoins là, de la communauté des personnes aveugles soient traités après coup. On veut qu'on pense à eux dès le début et que leurs droits soient respectés, hein, parce que souvent, c'est une question de droit. Donc, on considère que c'est la voie à suivre. Donc, c'est pour ça que notre nouveau plan stratégique s'appelle ainsi. On veut vraiment là, que les Québécois et les Canadiens aveugles qui ont trop longtemps été confrontés à des obstacles inutiles, maintenant, on veut qu'ils se sentent entendus, représentés dans la société d'une manière positive, mais surtout qu'ils sentent qu'ils ont vraiment des chances égales dans toutes les sphères de leur vie.
Ouais, c'est assez épouvantable hein, qu'encore en 2023, qu'on en soit encore à discuter de ça. Sarah?
Oui. Pour...
Alors, comment avez-vous établi les enjeux prioritaires sur lesquels vous allez travailler au cours des prochaines années?
Oui, vous avez raison. C'est frustrant de voir qu'il y a des choses qu'on parle depuis des décennies. C'est pour ça qu'on se dit, bon, ça va faire, on s'affirme de plus en plus, parce que c'est rien de nouveau. Là. Cette fois-ci, on a consulté 13 000 membres de notre communauté d'un bout à l'autre du pays. On leur a demandé ce qui était leurs plus grands enjeux parmi tous les enjeux qui demeurent encore aujourd'hui, ce qu'ils espéraient pour l'avenir, puis aussi comment INCA pouvait les aider. C'est basé sur ces commentaires-là qu'on a fait nos choix sur nos priorités pour les 5 prochaines années. Donc, les 3 ambitions qui ressortent, c'est changer les mentalités parce que ben c'est une des grosses barrières. Avoir des déplacements sécuritaires et accessibles parce que c'est le premier pas vers plein d'autres accessibilités. Puis aussi, on a décidé de se concentrer pour que nos enfants s'épanouissent.
Mais parlons des mentalités. Là. Qu'est-ce qu'on veut changer dans ça?
Bien, il y a encore beaucoup d'ignorance face à la perte de vision. Donc, on veut faire de la sensibilisation sur la perte de vision, mais aussi l'inclusion, l'accessibilité. Puis, on veut surtout dissiper les préjugés quant aux capacités des personnes aveugles, parce que souvent, c'est beaucoup plus les préjugés et l'inaccessibilité, bien sûr, là, qui sont les vraies barrières. Donc, c'est pas tant la perte de vision en tant que telle qui va être difficile. C'est ce que les gens croient ou pensent que les personnes aveugles peuvent ou ne pas faire. Donc, c'est vraiment là, souvent, là, le problème. Donc, c'est ces mentalités-là qu'on veut changer, autant pour le grand public que pour les personnes elles-mêmes qui vivent avec une perte de vision, de montrer tout ce qu'on peut faire et qui est capable de réaliser. Puis aussi, on aimerait que la société ne soit pas juste, qu'elle se contente pas juste de tolérer la diversité, mais vraiment qu'elle la valorise. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité.
Oui, les gens appellent cette mentalité-là le capacitisme, c'est-à-dire qu'on valorise les gens qui ont toutes leurs fonctions et comparativement à d'autres qui parfois ont des défis, donc, dont celui d'avoir un handicap visuel. Alors, comment avez-vous l'intention de changer les mentalités concrètement?
Bien sûr, ben, c'est de sensibiliser le public, bon, oui, sur les barrières, parce qu'il y en a, puis on mise sur l'accessibilité, mais comme on disait, sur les capacités et les talents des personnes qui ont une limitation visuelle, donc de montrer ce côté-là au lieu du côté plus... faire pitié, misérabilisme.
Le misérabilisme, oui.
Exactement. Donc, de montrer tout ce qu'on peut faire avec une limitation visuelle, puis ça va se faire bien surtout quand il n'y a pas de barrière. Tout ce qu'on peut faire quand c'est accessible. Donc, ça va se faire par des campagnes, on espère, à grande échelle. Puis on veut aussi créer des lignes directrices pour une représentation plus positive puis un langage plus inclusif qui pourrait être utilisé là, dans les médias, par les gouvernements, les spécialistes de la santé ou dans l'éducation. Puis comme on veut lever le ton puis arrêter d'accepter quand on brime les droits des personnes aveugles, ben là, il y a l'idée éventuelle d'avoir un programme de défense plus juridique où on réclame des dommages et intérêts quand les droits sont pas, ou qu'on fait plus de plaintes quand les droits sont pas respectés.
Oui, je rajoute, il y a une obligation. C'est même pas une question d'être gentil, comme vous l'avez dit au départ. C'est une obligation de la part de nos institutions de s'assurer que les personnes avec des défis, peu importe ce que c'est, ou un handicap visuel, puissent fonctionner, puissent avoir accès aux services. Alors, c'est pas juste une question d'être gentil. Non.
C'est ça.
Ça va plus loin que ça.
Ça suffit.
Ouais, ben c'est ça, parce qu'il faut que les droits soient respectés. Je pense toujours aux gens qui ont entamé une poursuite en justice contre la Société de transport de Montréal parce que les stations de métro, à part peut-être une vingtaine, ne sont pas accessibles. Et ça se peut plus qu'en 2023, ça traîne comme ça.
Oui, ça s'est amélioré parce que je pense qu'il y en avait deux au début pour
quelque
les personnes.
Chose, je pense qu'il y en avait trois, là, c'était les stations de Laval, oui.
Exact.
Alors, l'endroit pour avoir des problèmes de mobilité, il fallait vivre à Laval. Bon, OK, je ferme la parenthèse. Rappelez-nous pourquoi les déplacements donc sont un enjeu prioritaire, ben justement, on parle de déplacements.
Parlons-en,
pour les personnes de la communauté aveugle.
Oui, bien, premièrement, on s'entend que souvent, les personnes sont dans l'impossibilité d'avoir une auto, donc ils vont dépendre beaucoup des transports en commun des villes. Puis surtout, c'est que, tu sais, on veut tout rendre accessible, mais les déplacements, c'est la base. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'accéder aux services. Donc, on a beau rendre l'épicerie, la bibliothèque, l'école, le travail accessible, mais il faut quand même s'y rendre. Donc, pour nous, c'est la première chose à rendre accessible. Puis ensuite, ben ça permet de participer à la société quand justement on peut aller travailler, on peut aller à l'école, on peut aller chercher nos enfants à la garderie ou faire du bénévolat. Donc, c'était vraiment le premier pas pour leur permettre de vivre la vie qu'elles souhaitent, en fait, puis d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Et quand les transports sont pas accessibles, ben là, c'est vraiment une question l'autonomie qui va être réduite, puis on voit beaucoup d'isolement chez les personnes aveugles quand elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'était pour ça que pour nous, c'était prioritaire, étant donné que c'est le premier pas.
Alors, les objectifs, justement, en lien avec le transport?
Bien, d'éliminer les obstacles, hein, du point A jusqu'au point B, mais aussi de supprimer la charge mentale qui accompagne là, toute la planification puis la préparation des déplacements. Donc, déjà, pour se déplacer quand on a une limitation visuelle, ça demande quand même beaucoup de mémorisation, d'efforts, de pratique. Puis là, en plus, quand on rajoute tous les problèmes d'accessibilité ou les imprévus qui peuvent arriver, comme un changement d'arrêt, qu'on ne sait pas où il est déplacé, ou sinon même le chauffeur d'autobus qui nomme pas nécessairement l'arrêt à laquelle il faut qu'on descende. Donc, ça crée beaucoup de charges mentales, fait qu'on espère diminuer ça.
Oui, notamment là, le chien guide, hein, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des chauffeurs de taxi ou de Uber qui les permettent pas.
Exactement. Donc, c'est aussi un autre droit bafoué pour lequel on se bat.
Alors, comment avez-vous l'intention de créer des déplacements sécuritaires et accessibles?
Oui, on s'est déjà battu justement là pour Uber, les taxis, pour les chiens guides. Là, avec ce plan-là, on veut vraiment cibler les décideurs, les politiciens, mais les responsables de transport en commun. Donc, c'est là-dessus qu'on se contente pour les prochaines années. Mm-hmm. On va continuer de faire de la sensibilisation puis d'insister, là, bien sûr, pour que ça soit accessible. On pense aussi essayer d'encourager là, les utilisateurs testeurs pour vraiment faire des recommandations. Et on prône beaucoup la technologie aussi. Par exemple, quand on pense à se déplacer à l'intérieur des stations de métro ou des gares de train. Donc, c'est des pistes de solutions. Là.
Et
votre
troisième ambition, c'est au sujet des enfants. Alors, c'est quoi les principaux enjeux vis-à-vis là, les enfants?
Oui, bien, les enfants aveugles qui ont une basse vision, ils ne reçoivent pas vraiment le soutien scolaire dont ils ont besoin pour réussir. Puis d'un autre côté, il y a les parents qui sont aveugles qui, eux, souvent, sont pas capables de participer à l'éducation de leur enfant comme ils le voudraient parce que les devoirs ou les bulletins de notes ou les informations essentielles sont dans des formats non accessibles. Donc, on veut vraiment, là, encore une fois, leur permettre d'avoir les mêmes chances que toutes les autres personnes. Il y a encore une fois un manque de sensibilisation flagrant sur la perte de vision. Donc, on veut leur donner là, tous les outils pour qu'ils soient bien outillés, ben, notamment en augmentant là, notre programme pour les jeunes, enfants et familles. On veut vraiment aider les deux. Puis, on espère que les enfants aussi aient tous un dépistage là, d'un bout à l'autre du Canada, un dépistage de maladies oculaires avant l'entrée à l'école. Et ensuite, qu'il y ait des normes nationales sur l'éducation pour que les enfants qui ont une limitation visuelle aient vraiment le soutien dont ils ont besoin. Puis on revient à notre point 1 qui était de faire de la sensibilisation. Donc, on aimerait que tous les enfants dans les écoles soient sensibilisés à la perte de vision. Puis si on retourne à notre première ambition, bien, aux capacités des personnes qui ont une perte de vision d'une façon positive aussi, puis aux barrières, bien entendu, pour ne pas les perpétuer.
Et ça me ramène à demander qu'est-ce que nous, on peut faire. Je pense aux gens qui nous écoutent présentement. Et qu'est-ce qu'on peut faire là, si on veut en savoir plus, puis si on veut s'impliquer surtout?
Oui, bien, je vous invite vraiment, moi, je vous ai fait un résumé, mais à visiter inca.ca/fr/la-voie-à-suivre, donc voie, V-O-I-E, la voie à suivre pour en apprendre plus sur nos ambitions, mais surtout, tenez-vous au courant, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ou suivre nos infolettes via notre site internet inca.ca. Parce qu'il va y avoir des nouveaux programmes, il va y avoir des campagnes, puis on a beaucoup d'ambition, mais ça ne peut pas se faire tout seul. Donc oui, on a besoin que les gens embarquent, partagent nos messages et fassent partie là, de l'aventure.
Ben, écoute, on a le temps de parler de l'ancien plan stratégique qui disait oui. Avoir l'audace de rêver à un avenir meilleur. Alors c'était que la cécité ne devrait jamais être une raison de se contenter de moins. Et que les personnes aveugles devraient pouvoir aspirer aux mêmes aspirations dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, là?
Oui, donc comme on dit, hein, c'était le but, c'était plus de pouvoir le rêver, mais maintenant on met notre point à terre puis on n'accepte plus que ça ne soit pas possible. Dans ce temps-là, notre but, c'est vraiment d'augmenter la participation au monde du travail, d'exploiter la technologie puis promouvoir la réussite et l'égalité. Puis en seulement 5 ans, en plus de nos programmes là, qu'on a toujours eu de groupes d'entraide ou de formation en technologie adaptée, défense des droits, bien, on a mis sur pied le programme Ouvrir les portes du travail pour contrer le chômage qui était 3 fois plus élevé. Donc depuis, on a une 40aine d'employeurs avec des leaders là, comme Deloitte, Microsoft, Rogers et une 100aine de candidats aveugles qui ont trouvé un emploi. On avait aussi lancé notre programme Rendre l'appareil pour mettre d'anciens cellulaires, téléphones intelligents là, dans les mains des personnes aveugles parce que c'était des outils d'accessibilité tout en un. Donc ça, c'est une autre belle réussite là, de notre ancien plan stratégique. On a ouvert des hubs communautaires, même récemment là, le hub mobile dont on a parlé avec vous dans une autre chronique. Un peu partout au Canada, on a créé le programme de chien guide pour aider à répondre à la demande parce qu'il n'y en avait pas assez d'élevés au Canada. On a créé nos centres Mieux Vivre qui exploitent vraiment la technologie, mis sur pied plus notre programme jeunesse. On l'a commencé, là, on espère vraiment le poursuivre plus loin. On a créé des entreprises sociales aussi pour aider les entreprises qui veulent devenir plus accessibles, entre autres avec Frontières Accessibilité, faites plus de campagnes de défense des droits. Donc, ça donne un bon aperçu de ce qu'on a été capable de faire en 5 ans, qui est quand même gros, et on poursuit ces programmes-là. Là. On les laisse pas tomber, mais ça donne espoir sur ce qu'on va pouvoir faire avec notre nouveau plan stratégique, La Voie à suivre.
Ça va me permettre peut-être un petit jeu de mots, mais je trouve que finalement, l'INCA a une belle vision d'avenir.
Merci beaucoup.
Hein, on peut le dire en jeu de mots, mais oui. Ça veut tout dire parce que c'est pas parce qu'on a un déficit au niveau de la vision ou qu'on est aveugle complètement qu'on ne peut pas avoir de vision. Hein?
Alors, non, exactement. Voilà. Et on en a toute une vision. Notre communauté veut ce qu'il y a de mieux, veut s'épanouir, puis c'est ce qu'on souhaite leur permettre là, dans les prochaines années.
Ben, Sarah Rouleau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah Rouleau, qui est chef des communications et du marketing, programme francophone de l'INCA.
Ben merci, au plaisir.